France Inter. L'heure philo. Bienvenue dans l'heure philo. Lilian Allôme à la réalisation, Chantal Le Montagnier à la préparation, Djoubaka au choix des disques et Laurent Baudouin à la console.
L'heure philo. Patricia Martin sur France Inter.
Selon un sondage, on se disputerait 312 fois par an, soit une fois par jour pratiquement, et comme c'est une moyenne, on peut penser que certains d'entre nous le font plusieurs fois par jour. Elle relève de ce qu'on pourrait appeler la face claire de la dispute, sa tension minimale. Autrement dit, ses formes les plus légères, la bisbille, la chamaillerie, la prise de bec, la bouderie, la mauvaise humeur, faire la tête. Mais la dispute a aussi un visage sombre, celui qu'elle prend lorsqu'elle se mue en querelle, en bagarre, en affrontement, en empoignade, en conflit, en guerre. Le mot lui-même, dispute, est pourtant transparent. Il y a dispute lorsque les façons de calculer, raisonner ou penser, c'est-à-dire poutarer, se séparent, divergent, s'opposent, et que les tenants des unes non seulement jugent fausses, incorrectes, illégitimes celles des autres, mais de plus veulent imposer les leurs et s'irritent de ne point y réussir.
312 fois par an, dit le philosophe Robert Maggiore, c'est beaucoup, surtout si c'est avec la même personne. Point de dispute véritable entre nos deux invités, ni même de bisbille et encore moins d'empoignade, une conversation argumentée plutôt, qui, si elle commence dans une certaine agitation, se déploie et s'épanouit dans une hésitation certaine, hésitation transitoire toutefois. Quoi de mieux en effet, en frottant ses idées à celles de l'autre, que de comprendre ce que l'on défend et non pas de réfuter ce que l'autre propose. Et ils sont nombreux ceux qui pourraient en prendre de la graine. Étienne Balibar et Patrice Maniglier sont nos invités pour un livre publié chez Mial et Barreau, une disputatio, encore mieux que ça d'ailleurs, qu'ils nous donnent à lire, intitulée « La Terre ou le Monde, divergence cosmopolitique ». Étienne Balibar est professeur émérite de l'Université de Paris-Nanterre. Il a également enseigné aux États-Unis et en Angleterre. Citer tous ses livres serait déraisonnable. Le dernier pour lequel vous étiez déjà venu à l'heure philo date de 2022, Étienne Balibar. Il s'agit du troisième volume de la série des écrits autour de la cosmopolitique. Patrice Maniglier, vous êtes pour votre part maître de conférence à l'Université Paris-Nanterre. Vous étiez venu aussi dans l'heure philo pour un essai intitulé « Le philosophe, la Terre et le virus ». Voyez que j'ai bonne mémoire. Tous les deux, vous avez fait le point sur un certain nombre de questions qui vous tiennent à cœur. Vous allez nous préciser lesquelles. Mais d'abord, je voudrais savoir comment vous avez procédé. Vous me direz qu'avec Internet, aujourd'hui, c'est facile et qu'on peut échanger par le biais de courriel. Est-ce que c'est ce que vous avez fait, Étienne Balibar ?
Ben oui. Alors, il ne faut pas se mettre à doubler le livre d'un interminable récit, mais...
Non, mais quand même, c'est intéressant de savoir comment c'est intéressant. Vous avez fait.
Bon, alors, moi, ce que je... D'abord, je ne sais pas si on a le droit, vous m'avez dit qu'il y a des règles très strictes, mais je voudrais vous remercier de votre invitation, j'espère que ça passera.
Mais vous avez le droit de bien élever. Non, mais c'est nous qui sommes honorés de vous recevoir.
Et qui nous fait... Bon, très bien. Ensuite, ce que je voudrais dire, c'est que on vient d'entendre une petite explication du sens du mot dispute. Bon, disputatio, c'est plus pédant, plus savant, puisque c'est en latin. Cette collection dans laquelle nous insérons notre discussion a été fondée par Mazarine Pinjot et Sophie Nordman, et c'est elle qui, un beau jour, sont venues nous proposer d'y insérer une discussion entre nous, dont elles avaient par conséquent établi le style, enfin fixé les règles. Bon.
Mais vous vous connaissiez déjà dans la vie.
On se connaissait depuis
très longtemps, Patrice Maniglier.
Ben oui, puisque Étienne Balibar était mon directeur de maîtrise à l'époque. On appelait ça une maîtrise. Et puis de thèse, et puis... donc,
et de voilà. Fil en aiguille, vous êtes devenu ami.
Et nous sommes devenus amis, effectivement.
Oui, j'ai rien dirigé du tout. Il a fait une thèse sur un autre sujet que celui sur lequel j'étais censé le diriger.
Mais vous l'avez lu quand même, sa thèse.
Ah oui, j'ai lu. Rassurez-nous. Je l'ai lu et admiré, oui. Et proposé au jury, c'était mon rôle. Oui, donc elle nous ont dit le principe de la collection, qui peut avoir l'air un tout petit peu austère, c'est qu'il y a un thème, en principe controversé, sur lequel on essaie de faire intervenir deux interlocuteurs ou deux épistoliers, ou épistolières d'ailleurs, sur certains sujets c'est le cas, bien sûr, qui a priori ne sont pas d'accord, mais qui acceptent non seulement le jeu de la discussion, mais aussi, je dirais, le principe de la courtoisie.
J'aime quand vous dites a priori, parce qu'il y a l'a priori et l'a posteriori.
C'est-à-dire, ce qui est intéressant, et je vais laisser Patrice continuer. Bon, d'abord, ce que je voudrais dire aussi, c'est que ce genre, au fond, a une grande tradition et a de la branche, si j'ose dire, en philosophie. Dans le cours de l'échange, un petit peu par pédanterie de professeur, et puis pour m'amuser, j'ai dit, en somme, nous essayons de refaire, sur un sujet voisin, la grande discussion entre Leibniz et Clark, qui au XVIIe siècle a, au fond, résumé et déployé les enjeux de la nouvelle cosmologie de l'âge classique. Et comme la discussion entre Leibniz et Clark avait été entièrement organisée, suivie et surveillée par une grande princesse de l'époque, ça m'amusait beaucoup de suggérer que Mazarine et Sophie aujourd'hui jouaient ce rôle.
Mais une parenthèse au sujet de Leibniz, c'est que quand il avait des correspondants en Chine, par exemple, les lettres mettaient plus d'un an avant de parvenir à son destinataire.
Alors c'est ce qui s'est passé, Patrice.
Donc là,
parce que les lettres, par Internet, évidemment, on les rédige sur son ordinateur, on les envoie immédiatement, ça prend quelques minutes. Mais il s'est trouvé, il y est fait allusion à plusieurs reprises dans le cours du livre, que des événements sont venus se mettre en travers, soit personnel, soit surtout public, et on en parlera peut-être un petit
Bien
peu.
Bien sûr, on peut en parler.
Et donc, finalement, notre correspondance qui aurait dû se clore au bout de quelques semaines, sans coup férir, si j'ose dire, a fini par prendre, je ne sais pas, presque 2 ans, quelque chose comme ça.
Alors Patrice Maniguillier, maintenant que nous avons un petit peu planté le décor, venons-en au sujet. Le sujet, c'est la cosmopolitique.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire comment réactiver une tradition. Et pourquoi d'ailleurs réactiver une tradition qui est portée par ce mot cosmopolitique, donc cosmos, le monde. Politique, la police, la cité, donc l'idée d'une politique du monde, d'une politique à l'échelle du monde, qui est généralement liée à la question des étrangers, au fond, et de la division entre une politique qui est enfermée dans des frontières locales, souvent nationales pour nous les modernes, et une politique qui serait sans identité préalable, en quelque sorte, pour les sujets de cette politique. Un peu ça, l'idée de cosmopolitique, ça vient de Diogène, à qui on demandait... d'où il venait et qui disait « je suis citoyen du cosmos, citoyen du monde ». Donc ma cité, mon adresse en fait, c'est cosmos, c'est le monde, quoi. Et moi, depuis quelques années, sous l'influence de Bruno Latour, j'ai le sentiment que la notion de terre a fait effraction, en quelque sorte, dans les problématiques politiques qui sont les nôtres, de telle sorte que ça réactive cette tradition cosmopolitique, au sens où on peut plus faire de la politique de manière territoriale ou nationale ou locale, non pas seulement pour des raisons qui sont liées, en quelque sorte, à une forme, disons, d'humanisme, on pourrait dire, même si ça va au-delà de l'humanisme, dans le cas notamment de la position d'Étienne, mais aussi parce que, justement, nos problèmes sont terrestres. Je prends un argument très simple, je veux dire, si aujourd'hui on a une politique des transports publics à Paris, ça a des effets au Bangladesh, directement. Donc moi j'appelle ça empiètement, et donc je dis, les sujets concernés par nos décisions politiques ne sont pas représentés.
C'est Théodore Monod qui, en son temps, disait « quand on cueille une fleur, on atteint une étoile ».
Alors là, justement pas une étoile, je pense pas. Je pense que justement, il y a une condition terrestre. Et alors, donc là, ça m'intéressait beaucoup de discuter avec Étienne Balibar, qui, lui, est une des personnes qui a fait le plus pour réactiver cette notion de cosmopolitique. et qui s'est expliqué avec, disons, cet héritage ou cette tradition latourienne, écologique, etc., dans son dernier livre pour lequel vous avez invité. Et donc, j'ai trouvé ça intéressant de voir, parce que j'étais pas tout à fait sûr de l'endroit exact où nous étions en désaccord. Évidemment, je n'ai pas envie d'être en désaccord avec Étienne Balibar, mais en même temps, c'est très agréable, parce qu'on se dispute et c'est très agréable.
Et pour le lecteur, c'est ça qui est intéressant, évidemment, parce que c'est ça qui fait avancer les choses.
C'est ça, je pense qu'il y a un enjeu. Et alors, pour le dire peut-être de manière, je ne sais pas si Étienne sera d'accord, mais il y a des débats aujourd'hui très forts autour de la figure de Bruno Latour, et dans un conflit entre notamment ce qu'on appelle les éco-marxistes et, on va dire, les penseurs du vivant. Deux formules tout à fait caricaturales. Et moi, je trouvais que l'occasion, notamment dans la formule que proposaient Mazarine et Sophie, c'était justement de passer de cette espèce de clash qui n'aide pas, en fait, dans lequel, en gros, les penseurs du vivant sont censés être des suppôts idiots du capitalisme et les éco-marxistes sont censés être des humanistes arrogants et colonialistes, en fait. Ce que je crois, par ailleurs, parfois assez vrai. Cette espèce de conflit-là n'aide pas et notre discussion permettait de déplacer ce conflit pour en faire un vrai problème qui nous divise l'un et l'autre, les unes et les autres.
Et le fait que nous soyons terrestres, précisément, Étienne Balibar, si je vous ai bien compris, c'est que, alors évidemment, vous ne niez pas ça, on ne peut pas le faire, mais vous ne souhaitez pas donner à cette réalité le statut privilégié qui lui est parfois conféré.
Eh bien, si, d'une certaine façon.
Si ? Alors, il a changé d'avis depuis le livre.
Non, j'ai pas changé d'avis, mais compte tenu de ce que Patrice vient de dire, et nous n'avons pas le temps de recommencer toute une discussion, mais quelque chose du même genre va se produire. C'est-à-dire que nous ne cherchons pas systématiquement à être en désaccord. Mais ce qui nous intéresse, c'est quand même les points de difficulté, de litige, de différends, comme aurait dit Jean-François Lyotard, qui sont apparents ou cachés à l'intérieur des thèses que nous défendons et que le rapport avec l'autre permet de mettre en évidence. Hein. Bon, donc si vous permettez, je reviendrai un petit peu sur la définition l'étranger parce que ça me tient à cœur. Mais je voudrais vous répondre tout de suite que c'est pas un livre pour ou contre Latour. J'ai beaucoup moins connu Latour que Patrice et je n'ai pas d'hostilité a priori à sa pensée. Elle m'intéresse beaucoup, mais c'est pas non plus ça mon inspiration principale. Je suis pas un éco-marxiste, bon. Donc ce qui m'intéressait effectivement, c'était de faire intervenir, en effet, dans cette problématique que, avec d'autres et après bien d'autres, j'ai appelé cosmopolitique.
D'ailleurs, qui est un terme que vous reprenez. À d'autres, et notamment Étienne Tassin, c'est ça que vous citez à un moment
alors,
donné.
Alors, Étienne Tassin et moi, nous sommes beaucoup aimés, j'allais dire. Bon, je le regrette infiniment. Et nous avons travaillé ensemble, à la fois sur des questions spéculatives la question au fond de la définition de l'espèce humaine et de la possibilité de considérer l'espèce humaine comme un sujet politique au moins virtuel, qui est justement le point sur lequel Patrice me chicane, et il a certainement raison. Et puis d'autre part sur des questions extrêmement concrètes, parce que moi j'ai été moins militant que lui. Lui il est allé dans la jungle de Calais avec ses étudiants et moi aussi je me suis occupé de très longue date de la question des migrants, des réfugiés, de la condition qu'il aurait faite. Alors ça va me permettre de dire un mot sur les étrangers si vous permettez. Et pour qui dans le livre paru à la Découverte il y a quelques années, j'ai essayé de fabriquer une catégorie englobante qui permette justement de faire voir la dimension proprement cosmopolitique du problème de société et de morale qu'il pose. Et cette catégorie, c'est celle des errants. Et sur ce point, en effet, avec Étienne, on était tous les deux Étienne, on a beaucoup échangé. Mais alors, donc, la question de la Terre et de la de la condition terrestre, on pourrait dire, hein, et de l'atterrissage, pour reprendre le titre d'un célèbre opuscule, d'un célèbre petit livre de Bruno Latour, est une question dont je ne dis pas qu'elle était ignorée ou totalement marginalisée dans mes considérations, mais qui n'y occupait certainement pas une place stratégique. Hein, bon. Et du même coup, toute une série de questions allant des conséquences du réchauffement terrestre et de la disparition de la biodiversité à la grande question philosophique de savoir quelles sont les modalités de l'action politique aujourd'hui, à la fois locale et globale, étaient minimisées dans mon travail. Ce qui fait que j'étais enchanté, naturellement, de l'avoir soulevé, et on pourrait dire presque projeté ou jeté à ma figure par mon ami Patrice.
Dites-vous dans un sourire. Étienne Balibar, Patrice Maniglier, vous êtes nos invités pour cet essai La Terre, ce dialogue entre vous. La Terre ou le Monde, divergence cosmopolitique, publié chez Mialet Barreau. Manu Chao sur France Inter.
Arizona blues no more. Arizona rest no more. We want freedom to cross, cross the borderline. Freedom's no crime, let peaceful river flow. Let the people come and go. We want freedom to cross, freedom to pass. The everlast Arizona blues. Bloody, bloody border, no more. Sanguinary Arizona times. Rest, no more, no more. Bloody, bloody Arizona border. Blues, no more, no more. Sanguinary times. Arizona rest.
Nous avons évoqué cette grande figure que fut Bruno Latour. Écoutons-le, c'était sur France Culture et c'est une de ses dernières interviews.
Ce qui est très étrange dans cette affaire de ce qu'on pourrait appeler le nouveau régime climatique ou la question écologique, c'est qu'on a encore cette espèce d'illusion qu'on va trouver des solutions pacifiques, en quelque sorte, en ce sens que si on était conscient des problèmes, si on s'intéressait à la nature, on allait converger vers des solutions. Et on s'aperçoit que sur chaque sujet, c'est exactement l'inverse qui se passe. Tous les sujets sur lesquels nous étions en train de, disons, nous diriger deviennent des sujets de dispute. C'est ça qui rend très difficile de dessiner des camps. D'où cette incertitude en ce moment entre ce qu'on appelle populisme, ce qu'on appelle néolibéralisme, etc. Il y a tout un vocabulaire, une nouvelle forme d'expression à inventer pour retrouver des camps, et ça va prendre du temps. Mais la première chose à faire, c'est qu'on est en situation de guerre. Le corps de mes enfants est envahi par les pesticides de mes amis agriculteurs, ou inversement, nous envahissons par des décisions tout à fait absurdes, la vie des agriculteurs par des décisions de la PAC. On est dans une multitude de décisions, et on n'arrive pas à les organiser en camp, et il faut faire le boulot.
C'était donc Bruno Latour. Patrice Maniglier, moi, ce que c'est, les propos de Latour ont le mérite d'être clairs. La guerre, les guerres, en fait, vous affectent beaucoup et vous y revenez à plusieurs reprises dans votre dialogue.
Oui, bon, comment ne pas être affecté? Effectivement, on parle de la cosmopolitique. Un des enjeux centraux de notre livre, c'est de savoir quelle est la relation entre les questions écologiques et cette tradition cosmopolitique. Mais la cosmopolitique, c'est la question de la guerre. C'est la question de la guerre, c'est la question aussi des étrangers et de la violence.
La violence armée est aujourd'hui un problème cosmopolitique.
Oui, c'est-à-dire que par exemple, le grand texte de, puisque nous sommes dans une émission de philosophie de Kant, hein, qui est intitulé « Vers la paix perpétuelle », qui est un des textes dans lequel Kant introduit cette notion de cosmopolitique, comme son titre l'indique, parle de la guerre. Et quelle est l'idée? L'idée, c'est qu'en favorisant une culture de l'échange des positions, justement une culture qui se sépare un peu de la notion d'identité, ou qui implique des relations avec les étrangers, qui permet aux gens qui ne sont pas des citoyens d'avoir des droits, y compris d'une certaine manière politique, même s'ils ne sont pas citoyens, c'est ça l'idée, une citoyenneté cosmo du monde, ou peut-être même terrestre, que ça permet d'atténuer. C'était ça le grand rêve libéral, en quelque sorte. Ça permettrait d'atténuer le risque de la guerre, ou en tout cas l'extrême violence de la guerre. Bon, on est à la fin d'une période de mondialisation extrêmement intense, la troisième d'après certains historiens, et on voit bien que cette mondialisation aboutit à la guerre, et que même le cosmopolitisme est devenu un privilège des élites, et dans une relation un peu quand même de guerre, en tout cas de conflit de classe, très très fort, qui s'exprime finalement par une guerre nord-sud, en tout cas sur la frontière méditerranéenne. C'est vraiment des politiques tirées, mon ami Étienne Balibar, de nature quasiment exterminationniste. On veut laisser mourir les gens, tout simplement, pour les refouler. Bon. Et puis, bien sûr, il y a l'Ukraine d'un côté, Gaza, un génocide de l'autre, soutenu quand même malgré tout par nos États. Donc, évidemment, nous parlons du cosmopolitisme, et soudain, le fracas des armes, jusque encore une fois au génocide, intervient dans notre conversation. Donc bon, évidemment, on n'est pas tranquille, d'autant qu'Étienne est très impliqué dans ces questions, et ça a interrompu le livre. Bon, moi je trouve que c'est une certaine beauté de ce livre, c'est qu'il est cassé en deux, en fait, par un an où on n'arrive pas à échanger, parce que il y a cette angoisse, et Étienne ne cesse de revenir en disant, bon, c'est très intéressant ces histoires de conditions terrestres, mais la cosmopolitique, c'est aussi un ensemble d'outils philosophiques qui sont proposés aux gens pour essayer de faire autre chose que la guerre. Et c'est ça qui m'intéresse. Moi, j'ai appris ça de ce livre. C'est la différence entre cosmopolitique et géopolitique. Il y a cette fameuse phrase qui
dit «
géopolitique,
c'est pas du tout la même chose.
Ça sert à faire la guerre ». Eh bien, la cosmopolitique, ça sert à, là encore, j'emploie une phrase d'Étienne Balibar, ça sert à civiliser la guerre. Ça pourrait au minimum civiliser la guerre. Bon, moi je vais beaucoup plus loin à la fin du livre en disant il faut pas renoncer au projet d'abolition de la guerre. C'est quand même le grand projet d'abolition de la guerre, et s'appuyer, comme le dit très bien d'ailleurs Latour, s'appuyer sur la prolifération extraordinaire des conflits que l'effraction du terrestre ou des questions écologiques impliquent, pour repenser les conditions d'un repoussement de la guerre, et peut-être même d'une abolition. Mais ça, je le dis moi en tout cas à la fin du livre, ça c'est presque une nouvelle humanité, une humanité qui ne ferait pas la guerre, c'est une autre humanité.
Étienne Balibar, que répondez-vous à Patrice Maniglier, sachant que vous le soulignez bien dans votre dialogue, Gaza vous a surpris, mais vraiment surpris physiquement, en pleine réflexion au fond?
Il y a des choses dans Gaza qui malheureusement ne m'ont pas surpris du tout, parce que je pense que ce qui se passe en ce moment, et que Patrice vient à très juste titre de qualifier de génocide, ça ne fait aucun doute à mes yeux, ça vient de loin, ça vient de loin, et ça vient de loin à la fois sous des formes intelligibles, je dirais, hein, qui sont celles d'une certaine politique de puissance, de colonisation. Ça ne veut pas dire que la création de l'État d'Israël ait impliqué automatiquement la conséquence que nous observons aujourd'hui. Mais enfin, elle en contenait des éléments très forts qui ont fini par l'emporter sur tous les autres. Et puis, il y a quelque chose... je suis en train d'essayer d'écrire un texte, figurez-vous. J'ai du mal, mais j'espère y arriver.
C'est le quatrième volume
non,
de vos
écrits
C'est une réponse
aux questions d'une revue faite par des amis à moi, une revue en ligne, qui porte sur Gaza, c'est-à-dire comment penser Gaza. Bon, et une des choses que je dis, qui me choque moi-même, je ne vous le cache pas, pour toutes sortes de raisons, non seulement biographique, mais universel, c'est le fait que parmi les facteurs, les causes finalement, hein, de la forme génocidaire prise par la guerre israélienne contre le Hamas et en fait contre les Palestiniens, il y a malheureusement, et ça c'est terrifiant à penser, le génocide précédent, la Shoah elle-même. C'est-à-dire le fait que les Israéliens puissent invoquer le génocide dont leurs parents ont été victimes, soit comme la preuve du fait qu'eux n'en feront jamais autant, soit, ce qui est encore pire d'une certaine façon, comme une façon d'expliquer qu'ils ont tous les droits.
Mais là, vous êtes en train en train de manier de la dynamite.
Manie de la dynamite, oui, absolument. D'accord. Alors, on y reviendra si vous voulez, mais donc effectivement, c'est ça qui nous a sauté à la figure, à tous les deux, bien entendu, en cours de route. Parce que nous étions parti sur un ou deux des aspects, à mes yeux en effet très, très importants, de la question que vient de résumer parfaitement Patrice, c'est-à-dire que mettre aujourd'hui sous ce vieux concept de cosmopolitique. Bon. Et à mesure que nous avancions, il se trouve que c'est moi qui l'ai dit le premier dans la discussion, mais Patrice était évidemment d'accord.
Il l'a pensé en même temps.
Il nous apparaissait que il y avait encore autre chose qu'il ne fallait pas oublier, laisser tomber purement et simplement. Bon, alors ça, si vous me donnez encore 30 secondes, je sais que je suis très bavard, ça m'amène à deux des questions qui étaient soulevées. Premièrement, la guerre. Alors, en effet, Patrice dit « Je ne renonce pas à l'idée que une philosophie cosmopolitique est pour horizon ultime, pour objectif de penser, si possible, de favoriser ou de faire advenir un état de un rapport de l'humanité à elle-même qui soit pacifique. Bon, moi, ce qui m'obsède d'une certaine façon, enfin, faut pas abuser de ce mot, je suis pas contre cet objectif. Comment est-ce qu'on pourrait être contre cet objectif? Bon, mais c'est le fait que la situation, le rapport de la paix à la guerre, plusieurs l'ont dit dans la dernière période, bon, a qualitativement changé. Bon. Alors, évidemment, on peut se dire c'est une illusion d'optique, ça s'est déjà produit plusieurs fois dans l'histoire, si vous reprenez l'histoire de la question de la guerre, y compris en roman, etc. Quand arrivent les guerres populaires, la Révolution française, etc., Clausewitz dit la guerre n'est plus ce qu'elle était, etc. Bon. Et quand arrive la grande boucherie de 1914-1918, et puis ensuite la Deuxième Guerre mondiale, etc., il y a eu aussi un certain nombre de gens éloquents et intelligents pour dire le rapport de la paix, etc. Bon.
Alors, et après la Shoah, on a dit plus jamais ça.
Et bien sûr. Ce que je pense, effectivement, c'est qu'il y a un concept classique, qui est encore d'une certaine façon celui de Kant qu'on évoquait tout à l'heure, pour qui la guerre est l'interruption de la paix, c'est-à-dire la paix est d'une certaine façon l'état normal, si vous voulez, hein, y compris sous la forme de relations internationales, rapports de puissance, etc. Bon, et naturellement, ce que Kant cherche à penser et à faire penser, c'est un dépassement définitif des conditions qui provoquent périodiquement cette interruption. Bon, alors je crois que l'état de fait dans lequel nous trouvons aujourd'hui, j'ai employé employer effectivement le terme d'exterminisme repris à un grand historien britannique, militant de la des mouvements anti-armement nucléaire. L'exterminisme, c'est une situation dans laquelle la guerre est tellement multiple dans ses formes, tellement disséminée dans toutes les régions du monde, tellement profondément inscrite et de plus en plus dans l'évolution technologique et économique des sociétés dans lesquelles nous vivons, que on en vient à se poser la question de savoir comment la paix pourrait interrompre la guerre. Et alors, si vous me permettez un tout dernier mot, je reviendrai aux étrangers une autre fois, ou tout à l'heure, et à Manu Chao qui est bon, ce que Latour et son complice Patrice Maniglier et un troisième personnage qui joue un rôle très important, je crois, dans notre livre, parce que lui, il connaît très bien, mais moi, je le connais un petit peu et je l'admire beaucoup, qui est l'anthropologue brésilien Eduardo Viveiros de Castro, font intervenir massivement, et on vient de l'entendre dans les mots de Bruno Latour. C'est la question de savoir s'il convient de penser aussi le rapport destructeur, etc., que l'espèce humaine, ou plutôt la civilisation, la société humaine actuelle, massivement entretient avec le reste du vivant, sous la catégorie de guerre. Et alors moi, je ne récuse pas cette extension, je pense que c'est bon. C'est-à-dire qu'il y a d'une certaine façon un continuum entre cette violence, c'est une violence, et la violence militaire, etc., etc. Mais d'autre part, évidemment, le concept classique de la guerre est un concept qui implique une sorte de réciprocité, c'est-à-dire que les ennemis se battent et s'attaquent l'un l'autre. Même les Ukrainiens, même les Palestiniens font des attentats pour essayer de résister à la colonisation israélienne. Donc il y a, si vous voulez, une symétrie. Alors que dans le rapport violent que l'humanité ou la société humaine d'aujourd'hui entretient avec le reste de la vie, il n'y a pas de dissymétrie en ce sens. Il y a une profonde dissymétrie. C'est un peu abstrait dit comme ça, mais je pense qu'on peut comprendre. Et c'est un des points sur lesquels Patrice et moi, nous avons essayé d'argumenter à la fois philosophiquement, comment penser les acteurs, les sujets, etc. Et puis, oui, politiquement.
Alors, je voudrais vous faire écouter un enrobé, comme nous appelons ça ici, de Mathilde Vinceneux sur France Inter, sur les soulèvements de la Terre. Rappelons que c'est un collectif radical qui a été fondé en 2021.
Il a fallu 3 mois au ministère de l'Intérieur pour monter un dossier contre les soulèvements de la Terre. Selon une source proche du dossier, ce qui est reproché à ce mouvement hétéroclite, c'est d'organiser des manifestations interdites et violentes, de revendiquer le sabotage, de terroriser les agriculteurs. Depuis les violents affrontements à Sainte-Soline, c'est une mobilisation il y a une semaine en Loire-Atlantique contre l'exploitation du sable à des fins industrielles qui a, semble-t-il, accéléré la procédure de dissolution lorsque des parcelles d'une exploitation maraîchère ont été vandalisées par les militants écologistes, des serres lacérées, des salades arrachées. Et puis, dernier événement en date, ces tensions le week-end dernier lors d'une manifestation interdite contre le chantier de ligne ferroviaire Lyon-Turin. Les soulèvements de la Terre appellent eux au rassemblement demain pour dénoncer cette procédure de dissolution et l'arrestation aussi de 14 militants ce matin dans le cadre d'une enquête pour des dégradations dans une cimenterie Lafarge près de Marseille en décembre dernier.
L'homme n'est pas maître et possesseur de la nature, comme l'aurait dit Descartes. On n'est pas sûr qu'il l'ait dit, Patrice Maniglier.
Si, il l'a dit, mais on n'a pas du tout bien compris.
La phrase est écrite dans la 6e partie du discours de la méthode.
Pardon, ça m'avait échappé.
C'est comme maître, d'ailleurs. Mais bon.
Oui, le comme
je voudrais revenir sur cette idée selon laquelle donc, l'atterrissage, le fait de réintroduire notre condition terrestre, de l'introduire dans nos préoccupations, politique notamment, va permettre de déplacer quelque chose du rapport entre la guerre et la paix. Je voudrais revenir sur ce point. Pourquoi ? Parce que une partie, en tout cas, de la guerre, des guerres modernes, sont liées à l'État-nation. C'est-à-dire, quelque chose qui est un territoire qui peut se séparer du territoire des autres collectifs humains. Bon, ce que l'éruption du terrestre implique, comme je le disais tout à l'heure avec mon exemple du Bangladesh noyé par les transports publics parisiens, c'est que justement ces territoires ne peuvent plus se mettre à distance. Et ça, c'est quand même assez nouveau, parce que il y avait même des populations dites autochtones qui allaient dans les zones arctiques, dans les forêts tropicales, etc., et qui pouvaient s'éloigner et donc créer une sorte d'autonomie relative. Aujourd'hui, cette autonomie n'existe plus nulle part. Pour personne. Donc la situation est la suivante.
Et en même temps, la Terre, c'est quand même ce dont on ne peut pas sortir.
La Terre, et c'est ce dont on ne peut pas sortir, bien qu'il y ait une question ici temporelle, c'est-à-dire le développement des moyens de, entre guillemets, colonisation, le mot est important, de Mars et autres, prend un certain temps, plus long à mon avis, que le temps de l'effondrement des systèmes sociotechniques qui permettent ces développements techniques eux-mêmes. Ça, c'est un point important, parce que, évidemment, sinon on va nous dire « Ah ben si, on peut sortir, vous manquez d'imagination ». Oui, on peut, c'est une question de temps. Bon. Mais... Donc la situation est donc dès lors la suivante, c'est que en fait de toute manière tout est terrestre. Toute politique locale, y compris municipale, est terrestre, a des éléments terrestres. Moi c'est ça qui m'importe plus que la question de la continuité entre les humains et les animaux ou les autres qu'humains, ce qui m'intéresse c'est cette question si vous voulez géographique quoi. C'est que localement, on est déjà total en fait, on est déjà au niveau de la planète. On est planétaire localement. Donc qu'est-ce qui se passe ? Il se passe un apartheid planétaire. C'est-à-dire que les gens qui veulent, en fait, avoir des politiques non cosmopolitiques, c'est-à-dire qui ne prennent pas en jeu la grande diversité des implications, des intérêts sur cette planète, eh bien, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font comme Trump. C'est du séparatisme, mais c'est un séparatisme, évidemment, qui n'a d'autres outils que, tout simplement, l'écrasement des autres. Il n'y a pas de solution. C'est pas du tout un isolationnisme, n'est-ce pas? Ça, c'est le point le plus important de cette affaire. C'est-à-dire que la forme coloniale, il n'y a pas besoin aujourd'hui d'aller envoyer des chars pour occuper le territoire. Et même détruire radicalement le territoire. On le fait par ailleurs, et probablement c'est nécessaire d'ailleurs, pour avoir les moyens d'énergie qu'on a, mais il n'y a même pas besoin. C'est la destruction est immédiate, c'est-à-dire que le rapport colonial au monde, on pourrait dire un apartheid planétaire, est structurel. Et ça, c'est là qu'il n'y a pas de solution. Soit on est cosmopolitique, soit... Eh bien, c'est des génocides à non plus finir.
Mais là, on voit bien que la Terre...
Là, c'est ce qu'on est en train d'assister à Gaza. Oui. C'est abominable, oui. Mais c'est peut-être la préfiguration d'un régime normal. Et d'ailleurs, il y a une normalisation de ce génocide. C'est quand même invraisemblable, la situation dans laquelle on est. Et c'est pas impossible que ça devienne un régime normal, à mon avis, comme le suggère Latour, pour des raisons, au fond, écologiques. Mais l'écologie, c'est pas juste aimer les petites plantes vertes, n'est-ce pas ? L'écologie, ça a à voir avec des choses extrêmement dures, du genre l'énergie. L'énergie qu'on utilise pour à peu près tout. Ouais. Donc, et Latour le dit, ne négligeons pas d'une certaine manière ces questions écologiques. Elles
et
sont
la Pachamama, un jour, elle se retournera contre nous. Elle est déjà en train de...
Elle est déjà. C'est-à-dire que Trump est un visage, si vous voulez, je pourrais le dire franchement, je le pense, de la colère de la Terre. Enfin, c'est un visage de la Terre, directement, comme le moustique-tigre.
Un petit mot, un pas plus. Attention, je vous ai à l'œil. Étienne Balibar.
Bon. Ne nous disputons pas sur la question de savoir si la cause de l'extension prévisible, de la dissémination, de l'intensification et de la brutalisation des guerres qui s'approchent de nous, qui est déjà là, est une cause écologique. Hein, bon, je suis d'accord pour penser que ça fait partie d'un même complexe. Hein, bon, c'est une cause et une conséquence. Et le discours de Trump... Et Trump passe pour un fou auprès de beaucoup de gens bien élevés parce qu'il a mis officiellement le négationnisme environnemental au programme de son gouvernement et il en tire toutes les conséquences pratiques. Mais quand dans un pays comme la France, on s'empaille sur la question du budget, etc., bon, c'est vrai, ce problème est bien réel, c'est un problème de politique et de politique économique. Mais vous avez remarqué, je suppose, que la question écologique maintenant a totalement disparu du paysage.
C'est le moins qu'on puisse
dire. Ne vous étonnez pas ensuite que des mouvements comme les soulèvements de la Terre veuillent arracher des salades, comme on nous l'a dit tout à l'heure, et peut-être même quelques autres actions absolument indispensables pour réveiller les consciences. Bon, alors le point sur lequel je sais que vous auriez déjà dû me couper, mais sur lequel je serais content d'ajouter un mot est le suivant. Réfléchir à la cosmopolitique, c'est au fond entrer dans une sorte d'énumération. On part de certains problèmes ou de certains objets qui sont là, massifs. Bon, la cosmopolitique, c'est pas la géopolitique. Pour moi, c'est pas non plus tout à fait la même chose que la Gaïa politique dont Patrice a eu l'idée en commentant Bruno Latour, mais ça interfère. Hein. Bon, et puis on en ajoute au fur et à mesure. Bon, mais il y a un point sur lequel, c'est pour ça que je suis très content que vous ayez passé cette chanson de Manu Chao. Bon, il y a un point sur lequel nous sommes d'accord depuis le début, c'est qu'il y a une question centrale et la question de la frontière et du changement. Qu'est-ce qu'une frontière et qu'est-ce que c'est en train de devenir ? Bon, alors Patrice vient d'expliquer très bien, et je suis tout à fait d'accord avec lui, comment il aborde cette question à partir de la métamorphose des rapports à l'échelle mondiale entre tous les territoires et toutes les parties de l'humanité qui, d'une certaine façon, neutralisent ou relativisent l'importance de la frontière, de sorte que quand nous bouffons à tour de bras de la nourriture carbonée en France, le reste du monde en subit immédiatement les conséquences ou à terme les conséquences. Et moi, cette question de la frontière, je l'ai abordée de différentes façons. J'avais écrit autrefois un petit texte théorique là-dessus qui a beaucoup circulé dans les mouvements de mobilisation pour les réfugiés et pour les migrants. Je l'avais abordé effectivement à partir de la migration, hein, c'est-à-dire de la mobilité de l'espèce humaine ou d'une partie de l'espèce humaine. Bon, et si vous me permettez, à cause de la chanson de Manu Chao, je vais moi aussi citer quelque chose. Il y a une formule qui m'a beaucoup frappé autrefois quand elle a été employée. C'est celle dont s'étaient servis les immigrés sans papier ou avec papier aux États-Unis, tous d'origine sud-américaine, latino-américaine, ceux que la police de Trump est en ce moment en train de chasser et d'enfermer et de violenter, comme nous savons, et qui, il y a quelques années, avaient entrepris de grandes manifestations dans les grandes villes américaines, Los Angeles, Chicago, etc., pour faire voir, tout simplement, leur présence et leur utilité, et même le caractère essentiel de leur contribution. Ah bon. Et alors, ils avaient employé cette formule, que je cite dans sa langue d'origine, No cruzamos la frontera, nos cruzó la frontera. C'est pas nous qui avons traversé une frontière, c'est la frontière qui nous traverse et qui nous coupe en deux. Bon, et c'est ce renversement de point de vue, cette inversion de point de vue auquel je pensais en entendant Manu Chao tout à l'heure disant nous we want to cross the border, etc., etc. Bon, c'est ça la situation de base à partir de laquelle on peut essayer de réfléchir à la cosmopolitique. Et ça ramène à Kant, je sais bien que j'abuse, et ça ramène à Kant parce que la question de la frontière évidemment centrale chez Kant, hein, mais Kant a une conception classique de la frontière, celle que Patrice vient de dire, c'est la séparation entre des états-nations ou des quasi-états-nations. Avec la colonisation, il a un problème quand même, hein. Mais il en vient à dire, ce qui est étonnant de son point de vue, les Japonais et les Chinois ont bien raison de ne pas laisser n'importe qui traverser leurs frontières, sinon ça sera la colonisation. C'était pas un colonialiste quand c'était un eurocentrique. Bon. Mais au centre de sa réflexion, il y a une formule qui, à mon avis, excède le libéralisme qui est son horizon politique, et dont l'application à la situation actuelle est tout à fait révolutionnaire. Bon, j'ai changé d'avis, bon, j'étais pas du tout un kantien, hein. C'est celle qui dit, le point important, il appelle ça hospitalité ou hospitalité généralisée, c'est le fait que hors de son pays, un étranger ne soit pas traité comme un ennemi. La transformation des étrangers en ennemis, c'est la fonction principale des frontières. C'est la fonction. Et c'est pour ça que c'est un enjeu, à mes yeux, tout à fait central.
Vous êtes bien sur France Inter et c'est leur philo que vous écoutez. Étienne Balibar et Patrice Maniglier sont nos invités.
Efface tout. Comme l'air après l'orage.
C'était Yeli Yeli. Il faut un souffle pour résister à la désespérance. Je ne sais pas lequel de vous, Étienne Balibar ou Patrice Maniglier, le pense le plus fort. En tout cas, je l'ai lu dans votre dialogue. Comment est-ce qu'on résiste à la désespérance? Comment est-ce qu'on atterrit? Est-ce que le rapport à l'autre doit changer? Est-ce qu'il faut être plus stratège, Patrice Maniglier?
Alors moi, j'ai une réponse très simple, c'est en rendant les choses intéressantes. Il n'y a que le désir, en fait, qui peut répondre aux problèmes du monde. Donc il faut rendre ce à quoi on tient plus intéressant, plus désirable. Bon, moi, la manière dont je le fais, c'est d'essayer de rendre les choses intéressantes intellectuellement. Donc la philosophie me sert à ça, en fait, à produire de l'amour pour la réalité. Je voudrais juste revenir sur...
Mais il y a une urgence philosophique, en fait, compte tenu de l'état du monde, de ce nouveau monde dans lequel nous entrons.
Peut-être. En tout cas, il y a une curiosité ou un intérêt pour la philosophie qui, j'espère, voilà, il s'agit de d'y répondre pour nous. Bon, et je voudrais juste revenir sur peut-être les deux points. Donc, il a été question de Kant et de son idée. Bon, Kant pense que la Terre est une sphère et que c'est la raison pour laquelle, forcément, les êtres humains vont se rencontrer, se marcher dessus. Bon, nous savons qu'en fait, c'est une sphère qui bouge, en réalité. C'est ça, l'histoire du réchauffement climatique, ça bouge. Bon, donc c'est aussi ça qui est important. Le deuxième point qui me semble important, c'est donc Kant dit ne pas faire des étrangers des ennemis. Moi, je pense que la situation terrestre dans laquelle on est fait qu'aussi, il faut penser que nos ennemis sont, en fait, des étrangers, en fait, sont des étrangers avec nous, sur la même terre. C'est-à-dire que quand on détruit, en fait, un ennemi, en fait, on détruit aussi le territoire sur lequel on vit soi-même, hein, le territoire de la Terre. Bon, ça paraît très maigre au regard de l'ampleur des horreurs, en fait, de la guerre, mais c'est très 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 grave parce qu'il n'y a pas de retour, c'est irréversible. Donc quand les gens font la guerre aujourd'hui, ils feraient bien de penser à ce qu'ils laissent ensuite. Vous me direz, c'est une vieille question avec l'action nucléaire, mais elle revient d'une manière très intense aujourd'hui avec ces questions écologiques. Et la troisième chose, effectivement, c'est que c'est la question de la spécificité de l'humain qui occupe beaucoup notre livre. Donc moi, je pense en fait que l'asymétrie entre les humains et les autres qu'humains n'est pas si importante, et surtout elle n'est pas partagée comme perception de la même manière, en tout cas par tous les humains eux-mêmes. Donc ça, c'est un point qui me semble important, c'est-à-dire qu'un des enjeux de l'avenir, c'est d'être capable de remettre en jeu la catégorie d'humanité. Je dis pas du tout de s'en passer, non, pas du tout, c'est-à-dire ça n'a aucun sens. Tout finalement, les sociétés qu'on connaît font quelque chose de l'humanité. Eh ben
ben nous aussi, mais il faut peut-être réinventer. Moi je dis, ben, au fond, peut-être, ce qui est intéressant dans l'humanité, c'est que ça a été le site historique de l'apparition d'une conscience planétaire, c'est-à-dire d'une manière de sentir ce qu'on fait, y compris individuellement tous les matins, comme ayant des conséquences sur des échelles géologiques, c'est-à-dire échelles de temps et d'espace, qui ne sont pas du tout celles sur lesquelles j'ai de la maîtrise. Ça, c'est nouveau.
Étienne Balibar, un seul de conclusion.
Ben, je dirais que ce que vient de dire Patrice, c'est-à-dire que le privilège ou la caractéristique singulière de l'humanité parmi les autres espèces qui constituent toutes ensemble et en interaction permanente, plus ou moins pacifique, l'environnement terrestre, c'est d'avoir été le site d'émergence de l'idée de planétarité. C'est pas rien.
C'est pas rien.
Étienne Balibar, Patrice Maniglier, merci à tous les deux. La Terre ou le Monde, divergence cosmopolitique, donc au pluriel, c'est publié chez Mialet Barreau. Étienne Balibar, en 2022, vous nous aviez promis que vous alliez essayer de d'écrire le quatrième volume de ces écrits autour de la cosmopolitique. Où en êtes-vous?
Alors, c'est pas autour de la cosmopolitique. Bien
c'était l'avenir des racismes,
oui, c'est
ça? Oui,
c'est l'avenir des racismes. Formule plus ou moins inspirée de Lacan, mais que je prends dans un tout autre sens.
Alors, où est-ce que vous en êtes?
Eh bien, j'y travaille.
Je vous y travaille.
Mais j'ai été retardé par toutes sortes de choses.
Très bien, mais vous allez vous dépêcher.
Oh, si je peux, chère madame.
Et Patrice Maniglier?
Mais si je peux pas, tant pis.
Tant pis. Tant pis pour nous, surtout. Patrice Maniglier?
Moi, je termine un gros volume sur Lévi-Strauss, à vrai dire. Et ce sera peut-être un petit peu le deuxième volume de cette réécriture de l'histoire du structuralisme que j'avais commencé justement sous la direction d'Étienne Balibar à propos de
sociaux.
Et où je d'ailleurs devais faire une thèse sur Lévi-Strauss. Donc 30 ans plus tard, je fais un livre.
Eh bien, figurez-vous que les portes de leur philo vous sont ouvertes. Merci à tous les deux.